C'est bien de pouvoir vivre les rythmes de notre vie. Des fois, on passe par des moments hauts et des fois, on passe par quelques petites difficultés ou on ne sait pas pourquoi, par une certaine morosité de cœur ou je sais pas, hein, vous voyez, c'est comme ça. Et David, ça lui est arrivé et il se prenait par la peau du cou, il dit « Pourquoi t'as battu mon âme? Mais quelle est la raison? Il n'y en a pas. Hein? Espère en l'Éternel. » Voilà, on est fait d'émotions les uns et les autres. Puis il y a des jours où on est en haut, des jours où on est un petit peu moins en haut. Des fois, on entend tous les oiseaux chanter. Des fois, on dirait qu'il n'y a plus rien qui chante. Mais c'est comme cela. Et puis, donc, les vacances, ça prend aussi ça. Ça s'arrête aussi pour qu'on reprenne bientôt avec toute l'Église au complet. Hein. Que Dieu bénisse ceux qui sont encore un peu à droite, à gauche, en famille. Durant la semaine, on a eu l'occasion de parler sur ce que la Bible dit au sujet de Marie. Parce que vous savez qu'on est passé par le 15 août dans le cadre du calendrier. Et puis, pour nous, chrétiens, c'est important de voir ce que la Bible dit. Ça, c'est important pour... parce qu'on est, comme je disais, les gens de Béret, dans Actes au chapitre 17, qui examinaient tous les jours la parole de Dieu pour voir que ce qui se dit est exact ou non. Et dans le monde où nous vivons, il y a tellement besoin d'avoir un repère sûr qui est la parole de Dieu. Nous sommes gens de la parole. Vous êtes d'accord d'être de cela? Nous sommes une église de la parole. Ça, c'est important. Et bon, je rappelle des choses ce matin pour justement pour nous rappeler combien c'est ce livre de la qu'est la Bible est important pour nous. On va si c'est pas terminé, on ira plus loin mardi, mais voilà, on va lire dans 2 Timothée au chapitre 3, versets 16 et 17. Je voudrais rappeler ce matin à nous, à chacun d'entre nous, combien la parole de Dieu est essentielle dans notre vie. Alors, 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17. Toute écriture est inspiré de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. La Bible, l'Écriture, c'est la lettre de Dieu pour chacun d'entre nous. On aime recevoir du courrier, on aime recevoir quelques paroles. Moi, du moins, c'est plus Martine, elle a tout gardé, tout un paquet de courriers de notre échange. Alors, quand on n'était pas encore mariés, que j'étais à l'île de la Réunion, elle était à Montpellier, et elle a gardé tout cela. Hein. Voilà. Et puis, récemment, elle a pu avoir les lettres de ses parents. Quand son papa était sur le Richelieu, le bateau, à l'époque de la guerre, et que sa maman était en France, et tout le courrier. Donc, voilà. Dieu nous a écrit une lettre. Sa parole. Et c'est la lettre qui nous est adressée d'une manière personnelle. Alléluia. Dieu lui-même. Quand on lit la parole, c'est comme si c'était le Seigneur qui chuchotait à notre oreille. C'est tellement important si Dieu est important pour nous, c'est important de prendre en compte ce qu'il nous accorde, ce qu'il nous écrit dans sa lettre. La Bible, c'est la source principale de notre nourriture spirituelle. Amen. C'est notre nourriture spirituelle. C'est elle qui va nous rendre forts. C'est elle qui va nous apporter la lumière, l'éclairage, la connaissance de ce qui est le meilleur pour notre vie, révélé par le Seigneur qui nous aime. Ses conseils, ses instructions sont là pour nous. Et en fait, il y a un trésor tellement grand dans la parole de Dieu que dans nos vies, le diable essaye par tous les moyens de nous en éloigner, nous éloigner de la parole de Dieu. Il veut faire tous les moyens possibles pour nous distraire et pour nous empêcher de nous en nourrir. Vous le comprenez, on est tous faits de la même nature et je suis exactement avec les mêmes défis que vous. Des fois, le matin, on se lève et puis soudain, on se trouve pris dans un machin qui se manifeste là, un petit besoin là, pour régler une chose ou une autre. Et puis, l'heure passe et hop, on se dit, mais oh, ma lecture du matin, je ne l'ai pas faite. Ou après, on pousse à plus tard, et puis après, bon, ben voilà. Hein. Ça vous est déjà arrivé? À moins que ça soit comme seulement qu'à moi. Bon, j'ai l'impression que le diable, et peut-être des fois c'est même pas lui, c'est la vie et puis c'est moi qui me laisse entraîner comme cela. Il n'a pas besoin de faire beaucoup de choses. C'est dans ma nature de me laisser absorber par différentes choses et d'oublier ce qui est important, de me nourrir de la parole. Alors, ce matin, c'est juste un rappel à chacun d'entre nous pour la continuité de notre marche, quel que soit le niveau dans lequel nous sommes arrivés, si nous sommes nouveaux convertis ou si nous sommes des vieux routiers de la vie chrétienne, hein, depuis combien d'années, eh bien, nous avons tous besoin de dire la parole de Dieu, c'est l'essentiel dans ma vie. Des fois, on écoute une prédication, on a envie que, on est à la recherche d'une direction, on a besoin de quelque chose, etc., etc. Mais j'ai remarqué que la plupart du temps, bien sûr, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais la plupart du temps, pour en ce qui me concerne, Dieu m'a parlé par sa parole. Et chaque fois que il y a une réponse qui vient directement de la parole de Dieu dans le moment où je la lis, moi, avec le Seigneur, ça m'a donné une assurance, un éclaircissement et une fermeté beaucoup plus forte que si c'est même un frère qui m'aurait conseillé telle ou telle chose. Je ne sais pas si Dieu peut parler comme cela, hein, mais je vous assure, je crois que tous les chrétiens ont ce sentiment-là. Quand c'est une découverte, en quelque sorte, entre guillemets, une découverte directe dans notre communion avec Dieu, et que c'est le Seigneur qui met le doigt, alors il y a une assurance, une fermeté, et on peut dire « Dieu m'a parlé ». Et ça nous donne quelque chose qui est beaucoup plus fort que par... à la recherche de la direction de Dieu sous une autre forme. La façon essentielle de Dieu de nous conduire, c'est par sa parole. Amen. Alors, on fait un peu le résumé de nos connaissances. Qui a écrit la Bible? Qui a écrit la Bible? Eh bien, on l'a lu. Déjà, dans le texte, toute écriture est inspirée de qui? De qui? De Dieu. Amen. Donc, au milieu de tous les livres, tous les enseignements ou n'importe quoi qui peuvent venir vers nous, qui peuvent venir vers nous. Quand je prends la Bible, je peux avoir l'assurance que ce qui est là vient d'en haut. Il n'y a rien d'autre qui est inspiré dans l'absolu comme la parole de Dieu. Vous êtes d'accord? Même quand il y a des dons spirituels et que Dieu multiplie cela au maximum, et je le demande, c'est un enseignement de la parole de Dieu, aspirer aux dons spirituels. Mais même les dons spirituels n'ont pas du tout le même niveau que la parole indiscutable de Dieu, inspirée de Dieu. D'ailleurs, on juge les dons spirituels au travers du standard de la parole de Dieu. C'est ce que la Bible nous encourage à faire. Mais on ne juge pas la Bible parce qu'elle est inspirée. On la prend telle qu'elle est, elle vient de Dieu et c'est elle qui nous juge. Donc, qui a écrit la Bible? En réalité, s'il y a, on va voir, hein, ce sont des hommes qui l'ont écrit au cours des siècles, mais en réalité, c'est Dieu qui l'a écrit. C'est Dieu, ça vient de son cœur. Ça vient de son cœur. Hein. Dans 2 Pierre, au chapitre 1, au verset 20 et 21, il nous est dit ceci: « Sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture, ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie de l'Écriture, bien entendu, n'a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » L'Écriture vient parfaitement inspirée de Dieu, même si ce sont des hommes qui ont été les instruments d'avoir écrit ces choses. En fait, c'est un livre remarquable. Il y a environ 40 personnes qui ont écrit les 66 livres de la parole de Dieu, qui forment la bibliothèque qu'est la Bible. Et ces hommes étaient complètement différents, ils avaient des métiers différents, ils venaient d'endroits différents, etc. Ça a été écrit sur une période de 1500 ans. C'est énorme, hein? Donc il y a eu plusieurs cultures et des changements de culture avec le temps. Elle a été écrite en trois langues, araméen, hébreu, grec. Mais le thème central, c'est Dieu. Le thème central, c'est Dieu. Et plus précisément encore, le thème central, c'est la révélation du Dieu révélé, Jésus-Christ. Même dans l'Ancien Testament, tout pointait vers Jésus. La Bible, c'est le livre de Dieu pour nous. Jésus donnait de l'importance à la parole de Dieu et aux Écritures. Il dit ceci dans Jean chapitre 5, verset 39. Il dit: « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Alléluia. Si nous voulons connaître Jésus, les détails de ce qu'est Jésus, même, comme je disais, dans l'Ancien Testament avec les images, l'ombre de l'Ancien Testament par rapport à la réalité du Nouveau Testament de Jésus. Si nous voulons découvrir le Seigneur Jésus, c'est encore et toujours en lisant les Écritures. C'est Jésus qui dit: les Écritures parlent de moi. Et c'est même... il pouvait dire ainsi dans Jean, chapitre 5, verset 46-47, il dit: « Moïse a écrit de moi. » Alors, quand nous voulons connaître davantage le Seigneur Jésus, c'est encore au travers des Écritures. Alléluia. Jusqu'à quel point est-ce que nous pourrions avoir confiance dans les déclarations de la parole de Dieu? Jusqu'à quel point? Vous savez, il y a des théories, il y a des groupes religieux qui disent que la Bible contient la parole de Dieu, mais elle n'est pas la parole de Dieu. Attention, vous comprenez la différence? Elle contient. C'est-à-dire qu'il y a des passages où c'est la tradition des hommes, où c'est l'imperfection humaine qui est là, mais qui n'est pas inspirée. Et à partir de cela, ben, on peut sélectionner ce qui nous convient dans la Bible en disant « Ah, ça, c'est inspiré. Ça, c'est la parole de Dieu. Et ça, c'est pas la parole de Dieu. C'est l'enveloppe. Hein? » Non, non, non. Qu'est-ce qu'il nous a dit tout à l'heure, Paul? Toute l'Écriture est inspirée. Elle ne contient pas, elle est la parole de Dieu. Jusqu'à quel point on peut se fier à elle? Est-ce qu'elle est obsolète maintenant qu'on vit au 21e siècle? Est-ce que c'est passé de mode? Je lis dans le psaume au chapitre 119, verset 89. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Amen. Pour dire cela, à toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Et pas seulement le psalmiste de ce chapitre, mais Ésaïe pouvait dire dans le chapitre 40, au verset 8, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu, elle subsiste éternellement. Hein? Alléluia. Voilà, les choses de la terre passent. Nous-mêmes, nous passons, hein? Nous flétrissons. Mais il y a quelque chose qui demeure. Et Jésus, lui, le dit aussi en écho. Et quand ça sort de la bouche de Jésus, ben, il ne nous trompera jamais. Il dit dans le chapitre 24 de Matthieu, verset 35. Matthieu 24, 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alléluia. Alors, vous voyez, dans l'Ancien Testament, dans les Évangiles, dans les Épîtres, 1 Pierre, chapitre 1, verset 25, nous dit « Toute chair est comme l'herbe, toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. » Alléluia. Ce qui fait l'assurance de notre vie chrétienne, de notre expérience, par exemple quand on s'est converti, quand on s'est repenti, et qu'on a demandé pardon au Seigneur, comment pourrais-je savoir que je suis pardonné? Qu'est-ce qui me donne cette assurance? C'est parce que la Bible enseigne clairement que si je me repens, Dieu me pardonne. Alors, la parole de Dieu me donne toutes ces assurances et m'assure quand le diable va venir me titiller et m'ennuyer et vouloir mettre le doute dans mon expérience de ma vie chrétienne, remettre quelques incrédulités dans mon cœur, est-ce que c'est vraiment ça, etc. Je peux m'appuyer sur la parole de Dieu. Elle est tellement essentielle, la parole. Dans un monde où il n'y a plus de vérité absolue, où la philosophie dit que la vérité, c'est celle que moi, je considère la vérité. Vous savez, on est sur des terrains vraiment maintenant philosophiques et bizarroïde. Mais il y a une vérité absolue. Ta parole est la vérité. Alléluia. Alors, nous pouvons nous fier à elle. Jusqu'à quel point la Bible est-elle fiable? Pourquoi est-ce que la parole nous a été donnée? Nous l'avons lu. Nous reprenons ce verset où il est dit le pourquoi. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il est dit dans ce passage de 2 Timothée 3, versets 16, 17? Pour m'enseigner. Est-ce que j'ai besoin d'être enseigné? Ah ben oui, hein? J'ai besoin d'apprendre plein de choses. Je ne connais pas grand-chose. Et la Bible m'enseigne. Toute écriture est utile pour m'enseigner. Deuxième chose, pour convaincre. Des fois, moi, je suis convaincu ou je crois à que telle chose, c'est juste, etc. Mais la Bible me montre un autre chemin, montre quelque chose qui est là, des erreurs d'appréciation. Quand c'est Dieu qui me convainc, quand je fais confiance à celui qui a écrit cette lettre, elle peut me convaincre. Elle peut me convaincre de mille choses, dans plein de domaines où j'ai besoin d'avoir des éclairages, pour avoir quelques convictions, quelques choix à faire. Ou par exemple, là où je manque de foi, je lis la parole de Dieu et par la lecture de la parole de Dieu, soudain, elle me convainc et elle produit la foi dans mon cœur et je suis convaincu. Et elle me remplit d'assurance. J'ai besoin d'être convaincu. Elle a une puissance d'enseignement, de conviction. Elle a une puissance pour me corriger. Bon, mais ça, il faut alors avoir quand même un cœur suffisamment transparent envers nous-mêmes en disant que je suis corrigeable. Ça veut dire que je suis perfectible. Je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas parfait et j'ai besoin d'être corrigé. Est-ce que le Seigneur, des fois, vous a corrigé? En pleine foi. Et je crois qu'il va devoir encore continuer à le faire. Hein? Sa parole me reprend. Sa parole me reprend. Il a une façon, le Seigneur, de nous reprendre, de parler. Parce que il y a une action de sa parole qui va jusque dans notre conscience, que aucun livre ne peut faire. Parce que sa parole, elle est agissante, elle est vivante et agissante. Dieu connaît le chemin tortueux de notre intérieur et il sait comment aller pointer du doigt et mettre à la lumière ce qu'il faut faire, ce qu'il faut montrer pour nous convaincre. C'est pour cela que j'ai besoin de la parole de Dieu. Elle m'enseigne. Elle me convainc. Elle me corrige. Mais il faut alors que je sois corrigeable, hein, que je sois enseignable. Et ça, si elle me montre et que je ne veux pas, ben tant pis pour moi, hein, en quelque sorte. Mais Dieu veut me conduire, veut me convaincre. Et elle m'instruit. Elle m'instruit. Je ne veux pas rester quelqu'un d'ignorant. Je veux grandir avec le Seigneur. Et le pourquoi de la parole de Dieu, pourquoi? Donc, Dieu, dans ce verset, il nous a dit toute écriture. Elle vient de Dieu, inspirée de Dieu. Elle est utile. Elle est utile pour quoi faire? Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Parce que des fois, nous marchons dans l'injustice, mais la Bible nous aide à marcher dans la justice, dans les voies droites du Seigneur, afin que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, et nous sommes appelés homme ou femme de Dieu dans la mesure où nous aimons la parole de Dieu, nous donnons de la valeur à la parole de Dieu. Le chrétien, il doit être un homme de Dieu. C'est un homme qui est du côté de Dieu, qui est de Dieu. Il n'est pas du monde, il est l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, c'est celui qui marche dans les voies de la parole de son Dieu, afin que l'homme de Dieu soit accompli. C'est-à-dire, si nous voulons grandir, si nous ne voulons pas rester comme des petits-enfants spirituels, mais nous voulons grandir jour après jour dans notre vie, dans la maturité de la vie chrétienne, dans l'affermissement de la vie chrétienne, c'est encore au travers de la parole de Dieu, afin que l'homme de Dieu soit accompli. C'est là le but de Dieu. Il ne veut pas que nous soyons des enfants simplement, petits-petits. Nous soyons des héros de la foi, des hommes et des femmes fermes. Et pour cela, c'est au travers de la parole de Dieu. Et afin que l'homme de Dieu soit mature, accompli, et pour quoi faire ? Et propre à toute bonne œuvre. Dieu veut nous accorder des œuvres, des services. Dans le terme bonne œuvre, on peut le remplacer par le mot service, et le mot service peut être remplacé par le mot ministère. Nous sommes le corps de Christ, nous appartenons à la famille de Dieu, et chacun d'entre nous, le but de Dieu, dans la famille de Dieu, c'est que chacun d'entre nous, nous puissions être au service, que nous puissions pratiquer de bonnes œuvres, de bonnes œuvres, chacun d'entre nous. Et pour la meilleure façon d'exercer au maximum de notre potentiel que Dieu nous donne, ce sera au travers de la force et de la direction que nous allons puiser jour après jour en grandissant dans la parole de Dieu. Ce verset découpé ainsi nous montre la valeur de la parole de Dieu. Si nous devons ce matin répondre en notre âme et conscience et pour nous-mêmes devant le Seigneur, qui que nous soyons, de dire où c'est que j'en suis moi avec la lecture de la parole de Dieu, avec la méditation de la parole de Dieu. Chacun d'entre nous, moi-même en tout premier lieu. Je me souviens de la découverte du Seigneur quand je me suis converti et que je passais tous les jours à dévorer la parole de Dieu, à passer une demi-heure le matin, une demi-heure le soir, à lire et à dévorer la parole de Dieu. Où en sommes-nous? Et je vais vous dire un secret, ça on est en famille. Je vais vous dire, même si ça reste toujours un défi pour moi, en servant le Seigneur et en étant appelé à partager la parole de Dieu, j'ai à lutter contre le fait d'ouvrir la parole de Dieu pour y chercher des messages, pour apporter aux autres. Et peut-être que chacun d'entre nous, dans notre façon de lire la Bible aussi, on lit, puis tiens, ce passage, ça correspondait bien à telle sœur, tel frère. Non, c'est pour nous, c'est pour moi, en tout premier lieu. Et puis après, bon, je peux toujours l'apporter à l'occasion d'autres, mais en premier lieu, quoi qu'il en soit, c'est la lettre de Dieu pour moi. Tout à l'heure, j'avais employé une expression des vieux routiers de la vie chrétienne. Hein? Non, non, il ne faut pas qu'on tombe dans cette façon d'être. Hein. Comme si on était parvenu et qu'on n'avait plus rien à apprendre. Chaque fois qu'on lit la Bible, sérieusement, et qu'on prend le temps de le faire, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous avez beau lire un texte que vous avez lu déjà 10, 15, 20 fois, et si vous avez pris le temps dans votre lecture d'y revenir et d'y reméditer, il y a toujours quelque chose de nouveau dedans. Vous l'avez remarqué ça, hein? On a toujours quelque chose à apprendre et Dieu a toujours quelque chose à prendre de sa parole pour l'appliquer à notre vie. Et c'est tellement important. Alors, ce matin, je ne veux pas être un cador de la vie chrétienne. Je veux tout simplement dire, Seigneur, je veux répondre en mon âme et conscience, où c'est que j'en suis, moi, avec la lettre que tu me donnes à méditer et à lire. Et je ne veux pas avoir à rougir. Et si je devais rougir, je veux me reprendre et dire, un instant, j'ai délaissé l'importance de la parole de Dieu et je veux la remettre à sa place. Je voudrais vous entraîner encore à quelques autres lectures, l'importance de la parole de Dieu dans notre vie. Dans Hébreux, on va lire un petit peu plus rapidement ces versets. Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments. Me laisser sonder, juger par la parole. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Je suis dévoilé devant elle. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Quand je lis la parole de Dieu avec un cœur transparent, sonde-moi. Sonde-moi par l'instrument de ta parole. Elle sonde et elle dévoile. Qu'est-ce qu'elle fait encore comme action? Dans Jean chapitre 8, verset 31-32, Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. On ne peut pas être disciple du Seigneur chrétien si on n'est pas agent de la parole, hein? Vous êtes vraiment des mes disciples. Et qu'est-ce que la parole fait? Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Alléluia. Voilà les effets extraordinaires de la vérité, de la parole. Et il dit encore dans le chapitre 15, toujours du même évangile, au chapitre 15, verset 3, il dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncé. La parole de Dieu, elle a une action purifiante. Elle nous aide à elle dévoile les choses, à les impuretés, hein, et avec sa grâce, après avoir dévoilé les choses avec la grâce du Seigneur, eh bien, Dieu nous aide. Dans cette action de purification, on peut remettre nos imperfections, ce qui est impur, auprès du Seigneur, révélé par la parole. Et la parole est un instrument qui nous conduit dans une vie pure, dans une vie pure. Et on a besoin de telles valeurs dans un monde où il n'y a plus du tout les normes qui conviennent, les repères qui conviennent pour marcher dans ce qui est pur, moral, intègre. Le psalmiste que nous connaissons dans le psaume 119, c'est le chapitre extraordinaire sur la parole de Dieu, au verset 105, nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Elle apporte l'éclairage pour que j'avance. Alléluia. Et dans le verset 130, il dit, ta parole, la révélation de ta parole éclaire, elle donne de l'intelligence au simple. Ah, je fais partie de cela. Je suis pas suffisamment smart, intelligent à part moi-même. Alors, je suis bon. J'ai besoin de l'intelligence, mais celle de Dieu. Hein? Et donc, c'est au travers de sa parole. Et je lis dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 4. Elle assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Dans sa parole, je découvre les plus grandes et les plus précieuses promesses. Et là, ce ne sont pas des hommes, ce n'est pas quelqu'un qui a une bonne volonté qui me donne des promesses, mais c'est Dieu lui-même. Et les promesses de Dieu, ce que Dieu dit, eh bien, je peux m'y appuyer dessus. Et je peux venir vers le Seigneur en disant, mais Seigneur, mais tu me l'as promis. Voilà ce que tu me dis dans ta parole. Et le Seigneur, il est heureux alors, sur notre foi en ses promesses, d'accomplir ce que sa bouche dit et ce que sa parole déclare. Alléluia. Alors, il y a de l'importance pour la parole. Je vais vous donner encore un autre passage. Et voilà, vous avez remarqué, hein, il y a de quoi lire là, hein, ce matin. Donc, on va lire dans Psaume 19, versets 8 et 9. Alors, vous vous souviendrez que le Psaume 19 parle, exalte la parole de Dieu, et le Psaume 119 pareillement. Hein? Mais le psaume 19 est plus court. Le psaume 19 et le psaume 119. Donc là, on prend le chapitre 19 et au verset 8 et 9. La loi de l'Éternel, c'est-à-dire, c'est plusieurs expressions qui parlent de la parole de Dieu, mais là, donc, c'est la loi. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Le témoignage de la parole. Hein. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. Alors, il y a quatre choses que vous voyez là il nous est dit. Que la parole de Dieu, elle est parfaite. Un peu plus loin, elle est véritable. Un peu plus loin, elle est droite. Un peu plus loin, elle est pure. Quatre qualités de la parole de Dieu. Je peux m'appuyer sur ce qui est parfait, ce qui est véritable, ce qui est droit, ce qui est pur. Et elle m'apporte quatre bénédictions. Pour mon âme. Qu'est-ce qu'il est dit? Elle restaure mon âme. Est-ce que j'ai pas besoin de ça? Elle restaure mon âme. Quand mon âme, quand je suis blessé par les soucis de la vie, par des blessures que d'autres me font, etc., etc., par les circonstances de la vie, où pourrais-je trouver la consolation et le baume sur les blessures de ma vie? Elle restaure mon âme. Qu'est-ce qu'elle fait encore? Elle rend sage l'ignorant. Qu'est-ce qu'elle fait encore? Elle réjouit le cœur. Alléluia. Les consolations de sa parole, le réconfort de sa parole. Elle sèche mes larmes. Elle éclaire les yeux. Alléluia. Voilà. Un passage que je dois serrer sur mon cœur pour dire l'importance de la parole de Dieu. Tout à l'heure, je disais que la Bible, c'est la nourriture de notre âme. Bon, peut-être que l'heure passe, il est midi moins 20, hein? Voilà, ça gronde un petit peu là-dedans, hein? On a faim, voilà. C'est normal, notre corps le réclame. Bon, on peut faire sauter un repas, deux repas, etc., etc., mais bon, ça va, hein, si on saute, on saute, on saute, on saute dans le trou après, hein. Voilà, on ne peut pas passer, on ne peut pas se passer de nourriture pour notre corps. Ça. Bon, et pour notre âme, c'est pareil. Pour notre vie spirituelle, c'est pareil. Et peut-être une interrogation qu'on peut se dire, peut-être que certains se sont arrêtés sur le chemin de la vie chrétienne pour la raison, à cause du fait qu'ils n'ont pas suffisamment mangé, qu'ils sont morts de faim, qu'ils n'ont pas compris l'importance de se nourrir d'une manière personnelle de la parole de Dieu. Bien sûr, c'est formidable le dimanche, bien sûr, c'est formidable en semaine, et il faut, et la parole de Dieu nous exhorte à cela, donc on écoute la parole qui nous exhorte à cela. Mais rien ne doit remplacer, suppléer à la nourriture personnelle que nous prenons avec le Seigneur. Jésus pouvait le dire. Dans Matthieu 4, 4, il dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alléluia. On ne peut pas vivre spirituellement sans la Bible. Quel bonheur pour nous d'avoir la Bible, quand dans des pays où il y a la persécution ouverte, on confisque les Bibles. On empêche les gens d'avoir la Bible. Parce qu'ils le savent, ceux qui sont contre la foi chrétienne. Et le diable le sait. La meilleure façon, c'est de pouvoir subtiliser la parole de Dieu. Empêcher ceux qui ont rencontré le Seigneur de pouvoir prendre les vitamines et les forces pour aller de l'avant. Quand l'apôtre Pierre dit, je lis rapidement les versets 1 Pierre 2, 2, « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez pour le salut. » Voilà, le lait de la parole de Dieu. Et il dit à des nouveaux chrétiens, en quelque sorte, vous venez de naître, eh bien, pour grandir, il vous faut prendre le lait de la parole de Dieu. C'est une nourriture. Alléluia. C'est le pain d'effort. Alléluia. Autant c'est du steak pour ceux qui ont marché encore et qui doivent fouiller encore plus, mais c'est aussi du lait pour des nouveaux, et le Seigneur éclaire au fur et à mesure, selon le niveau de notre vie. Il y a de quoi manger dans la parole de Dieu pour chaque phase de notre croissance en lui. Et le psaume 119, verset 103 nous dit « Que ta parole, que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. » Voilà, qu'il en soit ainsi. Que notre envie d'aller vite nous mettre à table parce que c'est l'heure, eh bien, ce qu'on le puisse dire aussi que parallèlement, que Seigneur, tu m'aides à ce que dans mon âme, j'ai toujours soif, et jour après jour, si je saute un repas, eh bien, que je me sente inconfortable. Amen. Que qu'il y ait dans mon âme comme un cri, là, qui dit, hey, t'as pas mangé aujourd'hui, hein? T'as pas mangé aujourd'hui. Voilà. Seigneur, maintiens dans mon cœur le désir d'aimer ta parole. Elle est une nourriture. Elle est comme une semence. Une semence, quand la Bible est plantée dans notre cœur, la semence, elle ne sert pas immédiatement là, Mais elle est cachée là. Elle est là dans la terre et elle va servir un petit peu plus tard au temps opportun. Voilà. Alors, comme le temps passe, justement, hein, je vous ai dit l'heure, alors je suis pris en piège. Hein. Donc, on va s'arrêter. Mais voyez, vous le lirez. Vous le lirez dans Luc au chapitre 8, versets 4 à 15, où il est parlé de cette semence jetée en terre. Et la parole de Dieu, elle est jetée dans la terre. Et qu'est-ce que le diable veut faire le long du chemin? Qu'est-ce qu'il est dit? Hein, les oiseaux du ciel, ils viennent. Il mange. Et puis, si c'est jeté dans une terre pas profonde, c'est le soleil qui va sécher la plante qui pousse avec cette semence. Si c'est jeté dans les ronces, ça va l'étouffer. Mais le Seigneur dit, si elle est jetée dans une bonne terre, « Oh Seigneur, fais que ma terre soit bonne, que je sois ouvert !» Travailler et réceptif à ta parole. Et vous savez, dans ce passage, quand Jésus explique plus en profondeur la parabole aux disciples, et il parle le long du chemin, c'est le diable qui enlève de leur cœur la parole, le diable. Et dans le terrain pierreux, ils disent, quand ils succombent au moment de la tentation, hein, il y a le diable, il y a la tentation, au milieu des épines, il dit, quand les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie étouffe, voilà. Hein, et puis, il y a la bonne terre. Donc, il y a plusieurs choses dans la vie qui pourraient comme amoindrir le message de Dieu, la lettre de Dieu, la parole de Dieu pour nous, le diable, les soucis de la vie, les plaisirs de la vie, la tentation, les tentations. Hein, mais, eh bien, que Dieu nous donne d'avoir une bonne terre. Eh bien, voilà, c'est effectif, on n'a pas le temps de terminer, mais Pasteur m'a donné donc cette possibilité de terminer avec vous quelques réflexions à ce sujet mardi, et Dieu voulant, on pourrait aborder sur quelle est notre responsabilité par rapport à la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle engendre comme résultat dans notre vie, qui nous aide à comprendre sa parole, etc. Mais on verra ensemble. Vous êtes d'accord que cette semaine, nous ouvrons les uns les autres la parole de Dieu et qu'on lise par le Seigneur, hein? Voilà. Et que Dieu puisse permettre à chacun, dans le défi dans lequel vous passez en ce moment, que dans ce temps de rencontre, où vous parlez au Seigneur avec la prière, où le Saint-Esprit peut parler à votre cœur, et où Dieu aussi parle par sa parole, et que le Saint-Esprit utilise ces paroles écrites pour le rendre vivant à notre cœur, et bien que vous soyez bénis, et que vous puissiez avoir une semaine forte, heureuse et riche avec la grâce du Seigneur. Alléluia. Amen.